Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Jean-Désiré Kanyama à la présentation.
Et bonjour, bienvenue et bonne écoute au sommaire de ce journal. À peine après la signature de l'accord de paix de Washington, le président de la République déplore l'intensification de l'offensive du Rwanda dans l'est de la RDC. Déclaration faite hier jeudi à Kinshasa lors d'un conseil des ministres restreint au lendemain de la prise de la ville d'Uvira par l'AFC M23. Et puis ses plaidoyers pour le régime du commerce simplifié en RDC en tant que levier important du développement de son économie. Pour y parvenir, le ministère du commerce extérieur sensibilise plusieurs partenaires dans le but d'améliorer le climat des affaires dans le pays. L'invité de ce journal est Mouisha Léopold, acteur de la société civile du territoire de Massissi au Nord Kivu. Il évoque la situation humanitaire difficile des ménages retournés dans les zones sous occupation de l'AFC M23. Encore une fois, merci d'être avec nous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, déplore l'intensification de l'offensive du Rwanda, pays accusé de soutenir les rebelles du M23 dans l'est de la RDC, quelques jours à peine après la signature de l'accord de paix de Washington. Déclaration faite hier jeudi à Kinshasa lors d'un conseil des ministres restreint. C'était au lendemain de la prise de la ville d'Uvira, au sud Kivu, par les rebelles. Le chef de l'État exprime sa profonde préoccupation face aux pertes en vies humaines et à la dégradation de la situation humanitaire dans la région. Félix Tshisekedi appelle les institutions de la République à faire preuve de responsabilité et de vigilance. Les propos du chef de l'État sont ici restitués par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait proposé par Poli Mouzalia.
Le président de la République a déploré avec la plus grande fermeté que, à peine quelques jours après la signature de cet instrument, la République du Rwanda ait choisi de violer ses engagements. Elle a intensifié les opérations offensives dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu avec pour objectif manifeste de s'emparer de nouvelles agglomérations. Cette escalade militaire, contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord de Washington, aggrave dramatiquement une situation humanitaire déjà critique. Pertes en vies humaines, déplacements massifs, destruction d'infrastructures, traumatismes collectifs et précarisation accrue de populations déjà fragilisées. Face à cette nouvelle provocation, le président de la République en a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions de la République.
Et puis, le secrétaire général des Nations Unies, préoccupé par l'escalade de la violence dans la province du Sud Kivu, à l'est de la RDC, c'est ce que rapporte son porte-parole dans une déclaration parvenue hier jeudi à Radio Kapi. Antonio Guterres déplore les conséquences humanitaires de cette situation, y compris les déplacements de plus de 200 000 personnes depuis le 2 décembre dernier. Ainsi, il condamne la nouvelle offensive lancée par la rébellion de l'AFC M23 dans plusieurs localités de la province du Sud Kivu, notamment Kamanyola, Luvungi, Katogota et Uvira, qui a fait des victimes parmi les civils. Les points avec Grâce Hamzati Masanzi.
Dans cette déclaration, le secrétaire général appelle à une cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités, conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Il souligne que cette escalade risque de compromettre gravement les efforts visant à parvenir à une solution durable à la crise et augmente le risque d'un embrasement régional plus large. Il exhorte les parties à respecter les engagements pris dans le cadre des accords de Washington pour la paix et la prospérité, signés le 4 décembre, et à respecter pleinement le cadre des Doha pour un accord de paix global du 15 novembre. Antonio Guterres fait savoir que l'Organisation des Nations Unies est pleinement mobilisée pour travailler avec ses partenaires afin d'assurer une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Il réaffirme qu'il est prêt à continuer à appuyer les efforts diplomatiques en cours visant à rétablir la paix dans l'est de la RDC et dans la région. Ce, conformément à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région.
En Ituri, une paix relative s'observe depuis près de 4 mois dans les territoires de Djougou et d'Irumu. Les communautés locales se rapprochent peu à peu, renforçant ainsi la cohésion sociale dans la province. Selon l'association culturelle Inté, qui s'est exprimée mardi dernier lors d'un point de presse à Bounia, cette accalmie résulte des efforts conjoints du gouvernement et des leaders communautaires. Mais l'organisation déplore certaines bavures de l'armée, notamment des arrestations arbitraires d'habitants soupçonnés d'être des miliciens, ainsi que des violations du caractère civil de plusieurs sites, dont ceux de Nyamusasi, Kigonze et Savo. Isaac Remouyopé pour les détails.
L'association culturelle Inté qui regroupe la communauté Emma salue les efforts du gouvernement pour le rétablissement de la paix dans plusieurs villages des territoires de Djougou et d'Irumu. Elle souligne également le renforcement de la cohésion sociale entre les communautés locales, une dynamique qui permet désormais la libre circulation des personnes. Cette structure demande à l'État congolais de consolider cette paix en récupérant toutes les armées détenues illégalement par les groupes armés. Toutefois, l'association condamne le fait que certains habitants sont assimilés à des milices par les services de sécurité. Elle dénonce aussi des violations du droit international humanitaire, notamment des opérations de bouclage dans certains sites, suivies d'arrestations des déplacés, d'actes de pillage et de vols. Cette structure recommande l'ouverture d'enquêtes pour mettre fin à ces pratiques qui accentuent la vulnérabilité des déplacés. Ngadjole Jean-Claude, son président.
Que l'État congolais capitalise l'accalmie qui s'observe en Ituri en rendant effectif le PDDRCS. Renforce la sécurité et les métiers du caractère civil des sites de déplacés et que l'État les protège réellement.
Afin, l'association appelle ses membres à faire confiance au gouvernement et à les soutenir afin que la paix devienne effective sur toute l'étendue de la province. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
La République démocratique du Congo multiplie les initiatives pour faire du commerce transfrontalier un levier important du développement de son économie. Pour y parvenir, le ministère national du commerce extérieur collabore avec plusieurs partenaires afin de sensibiliser les différents acteurs de ce secteur aux instruments qui les régulent dans le but d'améliorer le climat dans le pays. Des détails avec Ronelyne Tibonera, Idi Amin.
Parmi les instruments, le ministre du Commerce extérieur met en avant le régime du commerce simplifié RECOS, selon Julien Paluku. L'idéal pour le gouvernement congolais est de faire du Congo une terre propice aux affaires à l'image d'autres pays membres du COMESA.
Quand quelqu'un veut venir en RDC, il pose des questions sur le climat des affaires. Est-ce que là-bas, pour avoir un document, il faut combien de temps? On dit, mais il faut un mois. Entre-temps, dans un autre pays voisin, il faut combien? On dit, il faut 24 heures. Quelle est l'échelle qu'il opère? Il va là où il faut 24 heures.
Du côté des Trademark Africa, une structure d'appui aux femmes exerçant les petits commerces transfrontaliers, la mise en place du RECOS constitue une opportunité unique pour améliorer les conditions de travail des femmes et des jeunes. Prisca Kalombola, responsable de programme.
Notre objectif est d'aider à créer des frontières qui fonctionnent mieux, des frontières où les contrôles sont efficaces, mais aussi respectueux, où les files d'attente se réduisent et où chacun sait clairement ce qu'il doit faire.
Quant aux petits commerçants, ils plaident auprès du gouvernement pour une accélération de la mise en œuvre effective du RECOS. Djamba Michel.
De façon que cela va aider beaucoup les petits commerçants transfrontaliers dans le cadre de l'échelle de valeur, dans le cadre de la compétitivité dans la sous-région, même au niveau local. C'est un atout très important.
Le régime commercial simplifié vise à lutter contre la fraude, à formaliser les activités informelles et à renforcer l'intégration économique régionale entre la RDC et ses voisins.
Renforcer l'autonomisation économique des femmes, c'est l'objectif de l'atelier organisé aujourd'hui à Kinshasa. Cette activité a rassemblé plusieurs acteurs engagés dans la promotion du genre. Ce forum a mis un accent particulier sur l'employabilité des femmes et l'accompagnement des entrepreneurs, avec pour finalité de faciliter leur accès aux ressources économiques et de promouvoir leur indépendance financière. Des précisions avec vous, Enoch Katumbi.
Dans son mot d'ouverture, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a rappelé la nécessité d'intégrer la dimension genre à chaque étape des projets de développement pour garantir un impact réel sur la vie des femmes.
Le partenariat doit désormais intégrer de manière systématique la dimension genre dans toutes les phases des projets. C'est à cette condition que nous transformerons les acquis en progrès irréversibles.
Plus qu'un simple échange, cette rencontre s'est transformée en véritable plaidoyer en faveur de l'autonomisation économique des femmes dans un contexte marqué par de fortes vulnérabilités, notamment dans l'est du pays. La coordinatrice de la structure Star RDC, partenaire technique du programme, Brigitte Kapinga, est revenue sur les avancées déjà réalisées dans les zones d'intervention.
Nous avons pu acheter 25 800 kits PEP et 8 297 kits PEP ont été distribués. Nous avons pu assister 4 879 survivantes de VBG et tous ces 4 879 ont bénéficié des appuis psychosociaux.
L'objectif global du projet reste clair, réduire durablement la pauvreté des femmes tout en renforçant leur résilience. L'atelier a également servi de cadre pour sensibiliser contre les cyberviolences qui touchent de nombreuses femmes et jeunes filles à travers le pays.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, beaucoup de voyageurs qui quittent le nord de la province du Nord Kivu ou même l'Ituri transitent par l'Ouganda et le Rwanda pour se rendre à Goma. Mais certains se heurtent à un problème de taille à la frontière ougando-rwandaise. La cause, le Rwanda ne figure pas sur leurs documents tenant lieu de passeport, bien que ce document donne accès à 6 pays de la région, dont le Rwanda. Conséquence, les voyageurs sont refoulés, faute d'une simple mention sur leurs documents officiels. Une situation sur leurs documents, une situation qui complique énormément les déplacements. Stanislas Djoumi nous donne plus de détails.
Au poste frontalier de Sianika entre l'Ouganda et le Rwanda, le problème est récurrent. Plusieurs voyageurs sont refoulés alors qu'ils ont pourtant payé leur billet pour un trajet de Kampala Goma via le Rwanda. Une mère de famille victime de ce refoulement raconte avoir voyagé toute la nuit de Kampala à Sianika pour apprendre à la frontière que le Rwanda n'était pas mentionné sur son document. Un activiste des droits de l'homme en province se demande s'il s'agit d'une mesure prise au niveau du gouvernement congolais ou d'une initiative isolée des agents de migration, refusant de mentionner le Rwanda sur le document. Un autre voyageur estime que cette non-mention ne fait que pénaliser inutilement les Congolais. Il souligne que cette mesure ne cause aucun préjudice aux compagnies de transport qui perçoivent la totalité de leurs frais ni au Rwanda. Il lance un appel au gouvernement congolais de ne pas rajouter aux souffrances que vivent déjà les populations de l'est du pays, car une fois refoulé à Sianika, les voyageurs sont contraints de faire un détour coûteux et fatigant vers Bunagana à la frontière ougando-congolaise, en prêtant une route en très mauvais état entre Bunagana et Rutshuru pour enfin arriver à Goma.
Et puis la Direction générale des impôts a entamé une formation de ses cadres et agents dans la province du Bas-Ouélé. Une formation de 10 jours axée sur l'impôt des sociétés IS et celle sur le revenu des personnes physiques IRPP a été lancée à Bouta hier jeudi. Selon l'inspecteur chef des poules de la DGI à Kisangani, avec ce nouveau système, les contribuables payent son impôt une fois au lieu de plusieurs fois comme cela se faisait autrefois. Ce nouveau système de paiement, dit-il, présente plusieurs avantages, notamment la maîtrise de l'assiette fiscale. Amissi Kayumba, inspecteur chef de poule de la DGI à Kisangani, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkolé.
L'assiette fiscale est devenue trop grande, c'est-à-dire tout le monde pour donc il y aura beaucoup de recettes qui vont entrer dans la caisse de l'État. C'est l'objectif même principal du gouvernement de quitter ce système-là et avancer vers le système de l'IRPP et de l'IS parce que l'assiette sera trop grande et les caisses de l'État seront renflouées par des recettes. Le système est déclaratif, c'est-à-dire le contribuable lui-même va déclarer ses revenus à des échéances bien fixées par la loi. Donc si vous êtes assujetti par exemple à l'IS, il y a l'échéance du 15 et à l'IRPP aussi c'est l'échange du 15. Les contribuables souscrit sa déclaration et il passe à la banque directement payée et puis il retourne à la DGI pour montrer la preuve de paiement et déposer sa déclaration. Que la population sache ceci. L'IS, c'est un impôt qui frappe uniquement les sociétés. Comparativement à l'IRPP, c'est un impôt pour les personnes physiques. Comme le mot l'indique, les sociétés, par exemple, pour les sociétés l'IS, on frappe les bénéfices nets de la société, mais pour l'IRPP, on fait une agrégation de tout le revenu de la personne physique et on les soumet à un taux progressif. Contrairement à l'IS, un taux proportionnel unique de 30%.
Formaliser le travail des domestiques, motocyclistes et maraîchers afin de leur garantir une protection sociale, c'est l'un des objectifs poursuivis par la campagne de sensibilisation lancée jeudi à Kinshasa par les regroupements syndicaux Union fait la force, constitué de la CDT, la Confédération du Travail et de l'Union Nationale des Travailleurs du Congo, l'UNTC. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet dénommé ISFI, qui tient à valoriser une catégorie de travailleurs contribuant à hauteur de 80% à l'économie nationale, mais dont les droits sont souvent bafoués. Les coordonnateurs du regroupement syndical Union fait la force invitent le gouvernement à peser de tout son poids pour assurer la protection des droits des travailleurs domestiques. Les propos d'Abel Mukomo ont été recueillis par Blaise Nongala Mayanda.
Nous sommes en train de sensibiliser la catégorie des travailleurs. Donc nous avons les travailleurs domestiques, nous avons les travailleurs maraîchers, nous avons les motocyclistes, nous avons les creuseurs des mines artisanaux, dont le Grand Katanga. L'objectif c'est d'abord formaliser ce secteur. Que ce secteur très important, qui contribue à plus de 80% à l'économie nationale, puisse quitter l'économie informelle vers le formel. Deuxièmement, ces catégories de travail puissent être syndicalisées. Qu'ils soient affiliés, qu'ils puissent affilier des syndicats que nous avons, dont nous avons la CDT et l'UNTC, ce sont les très grands syndicats qui vont les former et les informer par rapport à leurs droits. L'objectif, c'est de rendre leur travail fluidifiable et de rendre ce travail officiellement décent. que la protection sociale soit garantie et que les conditions de travail soient améliorées. Les conditions de travail, c'est aussi le salaire et l'environnement du travail en leur avantage, justement pour qu'ils soient dignes d'être appelés travailleurs, qu'ils soient fiers d'être appelés travailleurs.
À noter que les créateurs artisanaux sont également concernés par cette campagne de sensibilisation.
Actualité internationale.
Au Cameroun, une première grande audience s'est tenue hier jeudi au tribunal militaire de Yaoundé pour les personnes interpellées lors des contestations post-électorales. Au total, 77 prévenus ont comparu. Ils avaient été arrêtés dans la capitale après les manifestations qui ont suivi la déclaration de victoire de l'opposant Issa Tiroma Bakari à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier.
L'invité.
Il s'agit de Mouicha Léopold, acteur de la société civile du territoire de Massissi au Nord Kivu, qui évoque la situation humanitaire difficile des ménages retournés dans les zones sous occupation de l'AFC 1-23. Il s'entretient avec Ronelin Tibonera et Diamine.
Monsieur Léopold Mouicha, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de la région du Nord Kivu. Qu'en est-il de la situation humanitaire actuellement?
La situation humanitaire est très très alarmante. Comme vous le savez, lorsque les rebelles du M23 AFC avaient envahi la ville de Goma et ses environs, donc tous les camps des déplacés étaient démantelés de manière brutale. On a vu des centaines de milliers de déplacés retourner dans leurs villages, des villages qui étaient aussi quasi détruits. Donc avec leurs bâches, ils ont construit dans leurs villages de la façon dont ils étaient. Donc, la même vie qu'ils vivaient dans les camps des déplacés, ils l'ont ramené dans leur village sans aucune assistance. Il y a ceux qui ont parcouru des centaines de kilomètres. Après cela, il y a eu d'autres affrontements dans la région, surtout dans l'axe Kichanga, Massissi Centre. Au-delà de ça, personne. Donc, on est retourné. Vous savez, les paysans vivent de l'agriculture et de l'élevage. Vous savez, l'élevage était déjà saccagé. Recommencer l'agriculture sans roues, sans les semences, donc cela a posé vraiment des sérieux problèmes. Ce qui a occasionné dans ces populations-là des maladies comme la malnutrition, parce que en tout cas, au moins plus de 50% à Massissi, Rutshuru, et les populations vivent de la malnutrition. Donc, sont frappés de la malnutrition aiguë. Au-delà de ça, il y a d'autres épidémies comme la rougeole, le choléra, qui frappent dans les zones de santé de Kiroche, Massissi, de Nyiragongo. Vraiment, la situation est très, très alarmante et ça nécessite que la communauté nationale et internationale puisse s'y impliquer.
Alors, vous parlez bien sûr d'une situation qui affecte les populations qui se trouvent dans les zones occupées par les rebelles du M23. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la poursuite des affrontements dans certains milieux ou certaines entités. Je parle par exemple de la chefferie de Bouito. Nous pouvons également parler des Massissi avec Nyabiondo. Comment vivent les populations qui fuient ces combats qui sont devenus récurrents entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les Ouazalendo et les rebelles du M23?
En fait, les populations vivent dans un cycle de déplacement. Vous savez, les affrontements dans ces coins-là, il arrive que ça frappe pour un moment et ça stoppe. Ce qui fait que les gens peuvent voir une petite accalmie, ils retournent dans leur village. Demain ou après-demain, encore les affrontements recommencent. Ils fuient encore dans des forêts. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, les gens sont dans un traumatisme à outrance.
Le 4 décembre dernier, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Rwanda ont signé un accord de paix, et dit accord de Washington. Quel regard vous avez sur cet accord? Est-ce que sur le terrain, il y a des changements qui s'observent, vous qui venez du Nord Kivu?
Quand cet accord a été signé, il y a eu de l'espoir. Donc, c'était un ouf de soulagement dans l'esprit de nos populations de l'Est, surtout celles qui sont dans les zones occupées et les déplacés qui sont à Beni, à Walikale et partout ailleurs. Et malheureusement, le même jour qu'on était en train de signer cet accord, nous avons attendu des affrontements du côté de Kinyumba dans les Osobanyungu. Il y a eu des affrontements du côté du site Kivu. Et donc, tout de suite, l'espoir est redevenu encore le désespoir.
Vous avez un appel à faire passer à travers cet entretien sur Radio Okapi?
En fait, l'appel, c'est au niveau de nos gouvernants. Il faut qu'ils sachent que la population qui est en train de souffrir ne va pas attendre. Parce que quelqu'un qui est dans la misère, quelqu'un qui vit dans son sang et dans sa peau la souffrance, n'attendra pas jusqu'à ce qu'il y ait des accords. Il faudrait qu'il y ait un couloir humanitaire, donc qu'on vienne en aide à ces populations-là qui sont en souffrance. Au-delà de ça, il faudrait que le gouvernement puisse rechercher un consensus national. Parce que c'est notre pays qui est envahi, et donc toutes les forces politiques et sociales devraient s'asseoir pour voir ensemble comment trouver la paix.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, Mouicha Léopold, acteur de la société civile du territoire de Massissi au Nord Kivu, s'entretenait avec René Lin, Thibonera et Diamine. Fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.